Bonsoir. Depuis quelques semaines, plusieurs villes de la RDC font face à des inondations consécutives à des fortes pluies qui s'abattent sur une grande partie du pays. Des décès, des dégâts matériels importants ont été enregistrés, notamment dans les villes de Kisangani, Bukavu et Kinshasa. Dans l'ex-province de l'Équateur, la coordination de la société civile a déploré le week-end dernier l'inertie des gouvernements provinciaux et central dans la prise en charge des sinistrés de ces inondations. Quelle analyse faire de cette situation et que faire pour y remédier? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 23 décembre 2015. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Maître Bonaventure Maoutou Boleke. Il est directeur des cabinets adjoints du ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat. Maître Boleke, bonsoir.
Bonsoir.
Fabien Mungunza, président de la coordination de la société civile de l'ex-province de l'Équateur. Monsieur Mungunza, bonsoir.
Bonsoir, madame journaliste.
Et Apollinaire Salomon Kitenge, architecte, il est consultant en environnement et en construction. Monsieur Salomon, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les conséquences à la suite d'abondantes pluies qui s'abattent depuis plusieurs jours sur les territoires nationaux sont nombreuses. Elles touchent plusieurs contrées à travers le pays, de Kisangani dans la province de la Tchopo, en passant par Bumba et Lisala dans la Mongala, Mbandaka à l'Équateur et Boende dans la Tchopa, jusqu'à Kinshasa, la capitale, et à Matadi, dans le Congo central. On compte des milliers de personnes sans abri, plusieurs quartiers inondés, des dizaines de maisons sont toiture et aussi des routes coupées à plusieurs endroits. Une situation urgente qui nécessite des solutions urgentes. Jacques-Yves Molima pour les détails.
L'urgence s'impose notamment pour les 20 000 familles victimes des inondations de Kinshasa. Toutes ces familles, sans une quelconque assistance jusqu'à présent, ont tout de même été invitées par le ministre provincial de l'Intérieur de quitter ces zones en proie aux inondations par peur de pluies à venir. Mais où vont-elles aller? La question reste posée. Il y a également plus de 45 000 personnes victimes des inondations de Bumba qui attendent du secours passant la nuit à la Belle Étoile. À Bandundouville, ce sont les élèves d'au moins 4 écoles sans toiture qui ne vont plus à l'école. Les conséquences, c'est aussi des routes coupées. Entre Mokoto et Boende, la route est coupée sur une distance de 10 km. À Kisangani, l'entreprise SEP Congo ne sait plus approvisionner l'aéroport en carburant puisque la route est endommagée. À Lufototo, dans le Congo central, 3 enfants ont péri dans les inondations. Pour le député national Papi Nyango, toutes ces questions méritent des réponses urgentes de la part du gouvernement.
Face à une précarité, il faut trouver une solution. L'argent, il y en a. Il y a l'argent pour les frais de mission, il y a l'argent pour le fonds secret de recherche. C'est-à-dire qu'on prenne cet argent-là pour nous régler les calamités que nous enregistrons. Point barre.
D'après le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, des mesures ont été prises à l'issue de la réunion tenue mercredi par le chef de l'État et les membres du gouvernement central et provincial de Kinshasa. Des mesures qui n'ont pas été rendues publiques.
Merci Jacques-Yves Molima pour tous ces détails. Maître Bonaventure Maoutou Boleke, directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, comment on peut expliquer cette situation?
Merci madame. Ce que je peux dire à ce stade, c'est que au niveau du gouvernement central, il a été mis sur pied un comité de crise piloté par son excellence monsieur le Premier ministre. Et nous siégeons régulièrement à la primature en compagnie d'autres collègues des différents ministères en vue d'apporter une solution à ce problème.
Ce comité a déjà commencé son travail?
Il a commencé son travail depuis 2 semaines.
À Kinshasa ou à travers toute la République?
Ce comité a commencé son travail pour toute la République, madame.
Mmh. Oui. Et qu'est-ce qui a déjà été fait jusque-là?
Nous sommes au niveau des recommandations qui seront exécutées certainement. Nous attendons des instructions de la haute RH.
Vous parlez des recommandations. Quelles sont ces recommandations?
À ce stade, je ne peux pas les divulguer parce que nous sommes un comité d'experts. Il sera certainement mis en place un comité des ministres qui sont des décideurs.
Alors comment vous expliquez, monsieur Maître Mahoutou, ce phénomène? Certains observateurs parlent d'un sérieux problème urbanistique.
Effectivement, il s'agit du manque d'aménagement du territoire. C'est un concept nouveau pour certains compatriotes, mais croyez-moi, c'est un concept fondamental dans la recherche, n'est-ce pas, de solutions durables aux problèmes qui se posent actuellement.
Le pays manque une politique
Le pays manque de façon criante un plan d'aménagement du territoire. Donc, il faut mettre en place une politique d'aménagement national du territoire. Il faut aussi aider les autres entités provinciales, les ETD, les entités décentralisées, de mettre en place des politiques d'aménagement local. Ce n'est que de cette façon que l'on pourra mettre fin au désordre qui règne, n'est-ce pas, dans le domaine de l'aménagement.
Alors, il y a certains. Est-ce que vous pouvez expliquer clairement à tous ces auditeurs qui nous suivent ce que vous entendez par plan d'aménagement du territoire?
Le plan d'aménagement du territoire, c'est une politique qui consiste à rationaliser l'affectation des espaces, la planification des terres, c'est-à-dire en termes terre à terre. On dit ceci, cette portion de terre servira à la construction d'un camp militaire, tel autre espace servira à l'université, tel autre encore servira à un hôpital. Ce n'est que de cette façon que l'on pourra coordonner de façon rationnelle l'utilisation des terres en RDC.
Ce qui n'est pas le cas en RDC aujourd'hui, on construit sur des sites inappropriés.
On construit sur des sites inappropriés parce qu'il manque justement cette loi sur l'aménagement du territoire. Il existe une loi vieille de 57, mais qui n'est plus adaptée, n'est-ce pas, à la situation actuelle, parce qu'un plan d'aménagement, il est voté pour 15 ans. Il est révisable chaque 15 ans. Alors maintenant, là, on assiste à un vide juridique, de telle sorte qu'il y a péril en la demeure.
Donc chacun peut construire où il veut, et même l'État qui vend des terrains à des particuliers où on ne peut pas construire.
Justement, c'est un grand problème d'ignorance de la loi.
L'État est quand même en quelque sorte responsable de ce qui arrive.
Non, l'État a édicté des lois, notamment la loi de 73, la loi dite foncière, qui dit qu'avant d'envisager un quelconque lotissement, il faut s'adresser au ministère de l'Habitat.
Mais c'est ce qui se passe, non? Les gens, ceux qui cherchent des terrains ou des espaces, ils s'adressent au ministère de l'Habitat?
Généralement, non, madame. Par exemple, la CNESA.
Parce que ce sont ces mêmes agents de vos ministères qui octroient ou qui vendent des terrains.
Madame, à Kinshasa, la situation est très grave. Elle est même gravissime parce que les gens ont tendance plutôt à se référer au chef coutumier. Ce qui est catastrophique, parce que là on construit de façon désordonnée et c'est ce qui amène les inondations, l'érosion et tout.
Et donc l'État n'a rien à dire parce que ces gens se réfèrent au chef coutumier.
Non, mais justement,
l'État fait quoi?
L'État ne dispose pas encore des plans d'aménagement global. Ça vient avec le temps. Vous savez, le ministère
ça
de l'Aménagement.
Ça vous raconte combien de temps?
Non, mais justement, le ministère de l'Aménagement du territoire vient d'être mis en place en solo. Maintenant, là, on va se mettre à jeter les fondamentaux de l'aménagement du territoire.
Entre-temps, les gens vont continuer à mourir, les gens vont perdre des maisons.
Dans le cadre du comité de crise, présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, il a été décidé que les sites qui ne répondent pas aux critères urbanistiques doivent être fermés, doivent revenir au domaine public de l'État.
Mmh. Et ces gens qui habitaient ces sites, ils seront
relocalisés dans certains autres sites, mais qui seront...
Ils sont déjà ciblés ou...
Ils le sont, madame. Il est prématuré pour moi de les évoquer.
Entre-temps, ces milliers de personnes qui sont sans abri... En fait, se plaignent du fait qu'ils ne sont pas soutenus, qu'ils ne reçoivent pas l'aide du gouvernement.
Non, nous sommes à l'étape du repérage des sites. C'est ce qui a été fait. Maintenant, là, il reste, n'est-ce pas, au comité de crise de prendre des dispositions qui s'imposent en vue de viabiliser, ne serait-ce que minimalement, les 10 sites en vue d'accueillir les sinistrés.
Alors, il y a deux semaines, on était à 20 000 sans-abri. Est-ce que vous avez une idée, pour Kinshasa, pour la ville de Kinshasa, on était à 20 000 il y a deux semaines. Est-ce que vous avez une idée sur l'ensemble du territoire national?
Sur l'ensemble du territoire, pas tellement, mais au niveau de Kinshasa, nous disposons des chiffres. Nous disposons des chiffres susceptibles de nous permettre de localiser des sites susceptibles d'accueillir les sinistrés.
Merci Maître Bonaventure Mahoutsou. Fabien Mungunza, président de la coordination de la société civile de l'ex-province de l'Équateur. Vous, comment vous expliquez ou analysez ce phénomène, cette situation?
Madame, merci pour la parole. Il faut dire que je suis désolé des propos que je viens d'entendre tout à l'heure de la part de ceux qui nous gouvernent. Gouverner, c'est prévoir, madame. On ne peut pas comprendre que jusqu'à 55 ans après l'indépendance, nous en soyons encore à dire que nous n'avons pas de plan d'aménagement. Ce constat a été fait à la Conférence nationale souveraine, aux concertations nationales, et c'est la même chanson partout, madame, à chaque instant. Maintenant, nous avons besoin de mesures d'urgence. Il y a des compatriotes qui sont sinistrés, qui sont dans des situations très précaires. Et ceux qui nous gouvernent sont encore en train de réfléchir sur des recommandations, sur des choses. On ne comprend pas. Nous avons besoin maintenant de mesures d'urgence pour venir au secours de ces sinistrés, afin qu'on puisse soulager tant soit peu leurs difficultés. Mais maintenant là, madame, finalement, où est-ce que nous en sommes? C'est dommage pour le pays.
Et vous déplorez, vous, de la société civile de l'ex-province de l'Équateur, l'inertie du gouvernement provincial et central dans la prise en charge des sinistrés de ces inondations.
Oui, madame. Quelque part, nous avons l'impression qu'il n'y a pas de volonté politique. Pour rappel, je voudrais dire que le pays dispose déjà d'un plan d'organisation de secours en cas de catastrophe depuis mars 2012, grâce à l'appui de certains partenaires. Mais ce plan-là détaille une série de mesures à prendre lorsque le pays est frappé par une catastrophe naturelle. Et surtout lorsqu'il s'agit d'inondations, c'est une catastrophe qui ne se déclenche pas de façon très rapide. Elle est progressive. On a donc le temps de prendre des mesures pour pouvoir atténuer, n'est-ce pas, les dégâts qui peuvent naître de cette situation. Mais malheureusement, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau national, on a comme l'impression que nos autorités sont en train de dormir et cette situation ne semble pas les préoccuper. C'est grave, madame. C'est très dommage pour notre pays.
Fabien Mungunza, est-ce que la population n'est pas aussi un peu responsable de ce qui lui arrive? Elle se réfère au chef coutumier pour avoir des terrains, des espaces où construire, alors que au lieu d'aller de voir le ministère de l'Habitat.
Oui, madame, ce que vous dites est totalement vrai. Mais ici, chez nous, la situation que nous vivons semble être quelque peu différente. C'est vrai, au départ, il y a ces ayants droit. Donc, on peut rappeler qu'un millier de coutumiers, ils n'ont qu'un pouvoir. Ils s'arrogent le pouvoir de distribuer des portions de terre au vu et au sud de l'État. Et qu'est-ce que nous voyons ici chez nous? Eh bien, le cadastre et les affaires foncières viennent par la suite légaliser en livrant aux propriétaires des documents, des documents, des titres de propriété. Et donc, quelle que soit, l'intervention des chefs coutumiers, des ayants droit, mais nous pensons qu'il y a l'État. L'État a la responsabilité d'exécuter la loi. L'État a la responsabilité de veiller sur la conduite de chacun de nous afin que l'harmonie sociale puisse y régner. Et donc, cela ne peut pas dire que l'État n'est pas responsable de la situation parce qu'il y a des chefs coutumiers qui se mêlent des choses dont ils ne sont pas responsables. La responsabilité incombe totalement au gouvernement qui a la mission de faire exécuter les lois et les décisions qu'il prend.
Est-ce que vous avez une idée, Fabien Mungunza, du nombre de sinistrés à ce jour pour toute l'ex-province de l'Équateur?
Pas du tout, madame. Même ici, en Mandaka, ça pose problème. quelques organisations civiles aussi sont essayées pour faire le dénombrement des sinistrés. Mais le travail fait encore très partiel à tel enseigne que nous n'avons pas de statistiques officielles viables. C'est ainsi qu'à l'issue de notre réunion, nous avons décidé de renforcer le dénombrement pour que nous puissions avoir des statistiques plus ou moins viables qui puissent nous permettre de mener certaines actions à la mesure de nos moyens.
Alors, est-ce que vous avez contacté les autorités provinciales par rapport à la prise en charge des sinistrés?
Bon, nous avons fait le constat, madame. De toute façon, la gestion de tout un pays, nous vivons, n'est-ce pas, le même pays, nous vivons dans la même ville. Et donc, cette réalité-là n'a pas besoin d'une intervention extérieure pour que l'État puisse prendre ses responsabilités. Nous côtoyons les sinistrés tous. Nous les voyons, les routes qui sont coupées. C'est la route, par exemple, qui sépare l'habitation officielle du gouverneur de province et les gouvernorats. Elle est coupée. Est-ce qu'il faut qu'on aille dire aux responsables provinciaux que cette route est coupée pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités et essayer de faire ce qu'elles peuvent faire pour résoudre, pour trouver la solution au problème? Ah non, madame.
Merci Fabien Munguza. Apollinaire Salumu, vous êtes architecte et consultant en environnement et en construction. Comment vous expliquez ce phénomène, ces inondations qui ont mis, qui a causé beaucoup de dégâts matériels importants?
Merci madame. Vous savez, comme l'a si bien dit M. Munguza, les inondations sont causées par les remontées des eaux, soit de pluie, ou soit les eaux de ruissellement, ou soit certaines eaux qui viennent de barrages qui sont en difficulté. Hein. Ces problèmes sont tout à fait naturels, de manière à ce qu'il y a des fois des difficultés pour donner un aspect de problématiques à l'avance. Mais bon, ce sont venus, parmi beaucoup de pays du monde, on les retrouve. Hein. Certaines inondations sont causées par, comme on le trouve en Asie, par des tsunamis. Et ici chez nous, c'est beaucoup plus avec les remontées des eaux de pluie, beaucoup plus qui sont remontées par le fleuve ou soit par certaines rivières qui sont alimentées par ça. Voilà.
Alors, on accuse le gouvernement d'être responsable de ce qui arrive aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, je crois que la responsabilité du gouvernement ne pourra pas être totalement en amont, parce que le gouvernement n'est pas empêché que la pluie puisse tomber, sauf que il y a ce qu'on appelle le système d'alerte. Le gouvernement, s'il avait disposé par ce système, soit par la météorologie, avoir des équipements nécessaires à dire que pendant telle période, qu'on aura des fortes pluies, qu'on aura ceci, les inondations seront à telle hauteur, hein, pour permettre à ce que les gens puissent évacuer les lieux qui sont beaucoup plus dangereux. C'est là qu'on pourra dire la responsabilité de l'État, mais l'État ne pourra pas empêcher à ce que le puisse tomber, le plus puisse causer les inondations. Mais la responsabilité de l'État vient en aval, de manière à ce que quand il y a ces calamités, il faut quand même trouver des solutions, de manière à ce que ce genre de choses, ça peut arriver, mais qu'on ait quand même moins de dégâts, comme on l'a si bien remarqué aujourd'hui.
Les constructions sur les sites inappropriés.
Oui, là, c'est
ça aussi, c'est un problème.
Là, c'est un problème qui, pratiquement, moi, je pourrais dire que c'est aussi des responsables de l'État, pour dire qu'il y a des sites qui sont répertoriés, soit dans la ville de Kinshasa, soit à l'intérieur du pays, qui ont été attribués, et certains sites aussi, comme la nature a horreur du vide, hein, certaines personnes ont occupé. Comme l'a si bien dit M. Munguza, quelqu'un arrive à avoir un lopé de tête dans un site très dangereux, et il amène maintenant pour officialiser
ou bien légaliser. On peut prendre le cas de Debonom, par exemple, à Kinshasa, ici, où les gens ont construit sur vraiment le lit du fleuve. Hein.
Bon, le cas de Debonhomme, ce n'est pas aussi...
De la
rivière Ndjili. Mais on peut aussi construire à certains endroits si on a beaucoup de moyens. Vous êtes sans ignorer qu'il y a une cité qui pousse à Kinshasa, que tout le monde connaît, qui a été construite pratiquement au niveau du lit du fleuve.
La cité du fleuve.
Bon, bien sûr, pour ne pas le citer. Hein. Mais on a utilisé des moyens assez suffisants et appropriés pour y ériger. On a fait qu'aspirer le sable rejeter les sables en appliquant aussi des fondations de radier général, de manière à ce que les eaux, quand ça remonte, ça n'arrive pas à toucher. Mais il y a des sites, vous vous souvenez, du côté d'Indanou, c'était les Chinois qui faisaient des riz, c'était des rizières. Et puis on avait construit des digues pour empêcher à ce que les eaux remontent, mais les uns ont occupé ces sites. Mais si les problèmes de terre, moi je crois que pour ne pas rejoindre, pour rejoindre le Dirkaba, il y a aussi un problème au niveau de l'administration. Parce que quand on va demander, demander la terre, on ne va pas à l'urbanisme, on va aux affaires foncières. C'est les affaires foncières qui vous attribuent l'espace de terre. Et par après, l'urbanisme, c'est l'urbanisme qui devait être le précurseur en disant que non, à tel endroit, voilà, voilà, et les affaires foncières, vous pouvez maintenant l'être. Mais il y a un peu cette...
Il n'y a pas de collaboration, apparemment, entre ces ministères.
Bon, il doit y avoir, mais c'est peut-être les textes, hein, quand les textes qui les régit, hein, qui régit les ministères, sans pour autant entrer dans cette juridisme, hein, que c'est peut-être que je pourrais ne pas en sortir avec des cheveux, hein, pour permettre à ce que cette collaboration, à savoir qui octroie les terres, qui urbanise, qui donne le plan directeur et quels sont les terrains qui sont affectés à tel aspect et à l'autre aspect. Voilà.
Alors, est-ce normal, Apollinaire Saloumou, qu'un pays puisse manquer un plan d'aménagement du territoire?
Bon, c'est pas normal, bien sûr. Vous savez, nous sommes un pays qui parfois marche à contre-courant, hein, parmi tant d'autres, mais on ne peut pas dire que les gens qui nous gouvernent n'ont pas la capacité de faire ce plan directeur. Ils en ont. Mais c'est peut-être certaines priorités ou avoir une vision de ce qu'on peut. Parce que si vous informez, vous savez qu'il y a le BAU, hein, le Bureau d'études d'aménagement urbain, qui a aussi. Et vous avez, il y a aussi un atlas de la ville de Kinshasa, pour ne pas citer seulement Kinshasa, même du pays, pour voir comment est-ce qu'on a fait certains plans directeurs d'aménagement de la ville. Hein, c'est peut-être l'applicabilité qui paie aussi. Et aussi, ce n'est pas aussi les soucis, hein, c'est là où je peux rejoindre les autres, ce n'est pas aussi les soucis pratiquement des différents gouvernements, il ne faut pas voir seulement celui-ci, hein, des différents gouvernements pour arriver à améliorer cet aspect des choses.
Merci Apollinaire Saloumou, Maître Bonaventure Maoutou. Il y a un auditeur qui nous écrit, qui nous appelle depuis Bukavu, il a une question pour vous.
Amos Bissi, moi j'appelle à partir de la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. Nul n'ignore que les catastrophes naturelles existent partout au monde, mais celles qui se passent en RDC et qui causent malheureusement souvent des victimes et des dégâts matériels émanent de l'imprudence de nos autorités. Les agents de la division de l'urbanisme et habitat, des cadastres voient d'autres responsables vendre des parcelles à la population sur des sites impropres à la construction, aux vies et aussi des autorités, exposant ainsi les vies humaines au danger. Chose grave, à chaque fois lors de tels événements, l'autorité n'apporte qu'un des cercueils pour enterrer les morts sans afficher les sinistrés et disent vouloir prendre des mesures préventives en guise de s'éviter pareil cas dans l'avenir, mais en vain, car étant consciente de leur complicité dans la vente de ces parcelles sur des sites dangereux à la pauvre population.
Comment vous réagissez à ces propos, à cette interpellation de M. Bissimoua?
Madame, je pense qu'il est ignorant de certains textes de loi. Parce que la loi dit ceci. La loi dit, lorsque vous voulez solliciter un terrain, un lopin de terre, vous allez d'abord auprès du ministère de l'aménagement du territoire, urbanisme habitat, en vue d'obtenir un avis urbanistique. Parce qu'on ne peut pas permettre à quiconque de construire n'importe où. Seul l'agent de l'urbanisme peut vous indiquer où construire en fonction, n'est-ce pas, de l'environnement. Mais lorsque vous contournez l'agent de l'urbanisme, que vous allez ailleurs et qu'on vous attribue un titre, qui du reste est nul vis-à-vis de la loi parce que ce titre n'est pas conforme à l'avis urbanistique. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. C'est ça.
Et donc vous pensez que les gens n'ont pas rejeté la responsabilité sur le gouvernement?
Non, parce que la loi est là, il faut l'appliquer. C'est peut-être un problème d'ignorance de la loi.
Fabien Mungunza, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kisangani.
Je suis Valaké Monde, habitant à Kisangani. À mon avis, la faute est au gouvernement et aux habitants de l'endroit inondé. Les autorités savent les espaces inondés, mais ils autorisent les gens de construire là-bas à cause de l'argent. De l'autre côté, ceux qui achètent là-bas ne sont pas bêtes, mais ils ne savent pas les conditions qui sont là pour habiter là-bas. Quel endroit n'est pas bon, ils surnomment l'endroit Tokomeka. Les plans n'ont pas laissé ces espaces vides pour rien.
Fabien Mungunza, vous avez suivi la préoccupation de cet auditeur?
Oui, j'ai suivi, madame. C'est tout à fait vrai. Les populations sinistrées ne sont pas exemptes de toutes les responsabilités. Mais nous disons que la responsabilité du gouvernement est de loin plus importante. Parce que c'est ce gouvernement qui a la responsabilité de ramener sur le droit chemin ceux qui s'en écartent. Et comment le gouvernement peut assister de façon tout à fait indifférente à la construction de maisons sur des endroits dont il sait très bien qu'il y a des risques, qui sont qualifiés de zones à risque. Et il laisse faire jusqu'à la fin, il laisse les gens habiter. Mais pourquoi ne pas interrompre, madame? Pourquoi ne pas interrompre? Le gouvernement est représenté à tous les niveaux. Il n'y a pas que le gouvernement au niveau de Kinshasa. Mais l'État en tant que tel, à partir du quartier jusqu'au niveau national, il y a des responsables, il y a des chefs de quartier, des chefs de rue. Et qui représente l'État à ce niveau-là? Et pourquoi laisser ces gens-là, quand on les voit qui construisent en violation de la loi et à leur risque et péril, on les laisse construire jusqu'à la fin, on les laisse habiter, et pour attendre des catastrophes et les déclarer responsables parce qu'ils n'ont pas su observer la loi. Mais on observe la loi, mais il y a l'exécutif dont la responsabilité est de faire appliquer la loi, madame. Et donc, je crois que c'est vrai, la responsabilité est partagée, mais la part de l'État est de loin et de très loin plus importante.
Merci Fabien Mungunza. Apollinaire, il y a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Robert Rome de Bukavu, au sud Kivu. Ces inondations catastrophiques et meurtrières qui s'observent ces derniers temps sur certains coins de la RDC sont très inquiétantes. Je pense que pour y remédier, force serait que le gouvernement arrive à mettre sur pied en permanence des plans stratégiques d'aménagement du territoire à travers une véritable politique nationale de grands travaux. Bien sûr, des plans renforcés et soutenus annuellement par des budgets spéciaux conséquents pour la matérialisation effective. N'est-ce pas que gouverner, c'est prévoir?
Alors là, c'est Robert Bahomé qui nous écrit depuis Bukavu, lui qui propose déjà des solutions pour éviter ces genres de phénomènes à l'avenir. Il y a aussi le chef de service des prévisions des temps à l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite qui a été contacté par Radio Okapi, qui pense que c'est un phénomène naturel et saisonnier qui touche la partie sud de la ligne équatoriale. Jean-Louis et Bingo ajoutent que toutes ces conséquences pourraient être évitées ou minimisées si les services des météos étaient mis à contribution avant l'installation de la population dans une zone donnée. Jacques-Yves Molima va nous en dire plus.
Il s'agit de ce qu'on appelle front intertropical ou la zone de convergence intertropicale. D'après les spécialistes Jean-Louis et Bingo, en RDC ces derniers jours, cette zone couvre la partie sud de l'équateur.
Pour le moment, c'est le sud de l'équateur. Vous prenez l'ancienne province Bandundu, le Dé Kasaï, le Dé Kivu et la province du Katanga. La zone est accompagnée de nuages en extension verticale qui donnent des orages et des pluies.
Et ces anomalies prolongées et renchéries, les spécialistes, peuvent produire de graves inondations ou des sécheresses. En effet, tous les nuages appelés cumulus qui se forment dans l'avant-midi deviennent des orages à la fin de l'après-midi. C'est ce qui justifie les pluies abondantes dans la zone qui abrite la source du fleuve Congo. Et les conséquences à Kisangani, Bumba, Mbandaka, Bandundu et même Mamatadi s'expliquent. Toutefois, les populations pouvaient être épargnées, explique Jean-Louis Bengou.
On devrait consulter les services spécialisés pour installer. Même les maisons aussi. Quelle orientation qu'on devait donner à nos maisons? C'est tous ces éléments-là que nous devons au moins prévenir la population et éviter les catastrophes.
Comme qui dirait, mieux vaut prévenir que guérir.
Alors, Apollinaire Salomon, vous avez suivi cet auditeur de Bukavu, mais aussi cet expert de l'Agence nationale de météorologie et télédétection par satellite qui propose déjà des solutions pour éviter ces genres de phénomènes à l'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je crois que ce que je voulais vous dire au début de mon intervention, quand je parlais des systèmes d'alerte, comme ça se fait ailleurs, ces services existent, ouais, mais c'est bingo. Quand ils vous donnent ces éléments, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans un service, mais peut-être ils manquent de moyens, ou peut-être ne sont pas contactés à l'avance pour qu'ils leur donnent des statistiques ou bien des événements prévisionnels. C'est un peu ça, c'est-à-dire, si on donnait des équipements et on donnait aussi les moyens, ou on consultait aussi ces services continuellement, pour dire que non, au mois de décembre, au mois de janvier, il y aura des pluies, des fortes pluies. Voilà cette alerte qu'il faudra faire pour de manière à ce que, qu'on prévient la population, pas seulement à Kinshasa, à des différentes provinces, quoi, qu'il faudra y appliquer ce genre d'alerte. Et puis pour notre ami de Bukavu, s'il faut prévoir les plans d'aménagement ou des équipements nécessaires, mais je voudrais vous dire, madame, qu'il faudra pas seulement voir cela, mais il y a aussi certains cas où les inondations ne sont pas du type à envahir seulement les maisons et faire des catastrophes de manière à tuer les gens. Vous avez aussi certaines inondations qui détruit l'environnement ou qui détruit les systèmes de circulation routière ou bien des évacuations des eaux. Vous êtes devant l'hôtel des villes, au niveau d'une station Shell, ou bien vous êtes au niveau du boulevard, pour prendre seulement des petits exemples. Là, vous avez des dégâts pratiquement qui... l'eau est sous la surface où les équipements ne sont plus capables, les équipements d'évacuation ne sont plus capables d'évacuer les eaux jusqu'au niveau du versant, soit du fleuve. Quand vous voyez le plan d'évacuation des eaux au niveau de BAI, sur l'équipement que je vous disais, le plan d'aménagement, vous trouvez qu'il y a des égouts qui amènent ces eaux-là. Mais actuellement, avec la pluviométrie abondante, ne sont plus capables d'évacuer toutes ces eaux qui viennent à la pluie avec l'ensablement, de manière à ce que ça puisse laisser la surface un peu sèche. Mais pour ce qui est des catastrophes qui amènent des glissements des terres, qui amènent aussi, qui emportent les routes, là vous n'allez pas dire sur une route que cette route-là a été mal placée, pour que s'il y a coupure de cette route, c'est que l'État a mal fait de situer cette route à ce niveau. Mais ce sont les moyens d'intervention, comme dit M. Mungoza, qui prend du temps pour intervenir aux endroits où il y a ce problème de rupture de route. Vous avez vu au niveau du triangle, s'il faut parler de Kinshasa, en montant vers Mongafula, vous voyez, c'est un problème d'ensablement qui a fait en sorte que les égouttoirs ou bien les bus qui ont emporté l'eau sont ensablés. Et l'eau a emporté même les bus. Vous voyez, aussi là où il y a quelqu'un qui a occupé, c'est un espace qui n'était pas pratiquement construit il y a plusieurs années. Pour tous qui ont fréquenté le campus Mongafula, connaissaient que cet espace-là était resté non occupé.
Alors, Apollinaire, vous avez parlé d'équiper, il faut équiper l'Agence nationale des météorologies, mais les bureaux même qui habitent, l'espace qui abrite les bureaux de cette agence est spolié. Ouais. Ça veut dire qu'on n'y accorde pas beaucoup d'importance.
Oui, mais c'est là où, quand la population ou bien les Congolais tout venant peut dire que non, la responsabilité de l'État, parce que c'est l'État lui-même qui est propriétaire de cet espace, mais l'État lui-même a vendu. Je ne crois pas, madame, quelqu'un comme l'espace météo, quelqu'un peut se réveiller un matin en disant que je prends cet espace de terre, il l'occupe. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a eu affectation ou désaffectation de cet espace. Et souvent, moi je sais, sur d'autres siècles, avant d'affecter quelque part, il y a soit un arrêté ou soit une ordonnance qui permet à désaffecter tel endroit qui était un bien de l'État ou bien un espace public, et affecté pour ça. Mais il y a aussi, comme M. Mungoza a dit, pour s'occuper de ces sinistrés, il y a aussi carence, les cadets des soucis aussi, pas seulement notre pays, mais presque tous les pays africains, des équipements qui peuvent recevoir ces gens, ces sinistrés-là, tant soit peu, en attendant qu'ils soient relocalisés. Sous d'autres cieux, madame, vous voyez les réfugiés syriens qui affluent en Europe, des millions, maintenant là. Mais ces gens-là ne dorment pas à la belle étoile. Ils sont accueillis et occupent certains gymnases, certains palais de sport, pour un peu localiser ces gens. Mais chez nous, ici, si on avait ça, on pouvait aussi...
Vous voulez dire que c'est un problème de manque de moyens?
Non, ce n'est pas le moyen, c'est manque de volonté. Manque de volonté, parce que le moyen, il y en a.
Merci Apollinaire Salomon, Maître Bonaventure Maoutou. Vous avez suivi les propositions pour prévenir ces genres de situations. Quelle autre solution vous pouvez proposer, madame, en dehors du plan d'aménagement que nous devons attendre, comme vous l'avez dit tout à l'heure?
Non, le processus est en cours. Nous avons organisé au courant de l'année 2015 deux séminaires tendant à mettre en place cette politique d'aménagement, de telle sorte que, au bout d'un certain temps, nous allons mettre en œuvre la dite politique et aider les provinces à mettre en place les politiques provinciales et locales d'aménagement. C'est l'unique solution, madame, parce que sans aménagement, il n'y a pas de développement.
Alors, vous avez parlé des comités des crises pour la prise en charge de ces gens, de tous ces sinistrés. Ils font quoi concrètement?
Je vous ai dit que c'était une structure qui est pilotée par son Excellence Monsieur le Premier ministre et dont les effets ne vont pas se faire attendre. Parce que nous sommes en plein, n'est-ce pas, travail. Nous sommes en train de récolter les données relatives d'abord aux sinistrés. Et enfin, nous sommes en train de repérer les sites, par exemple à Kinshasa et même ailleurs, pour essayer de recaser les sinistrés.
Alors, est-ce que vous avez prévu, par exemple, des campagnes de sensibilisation auprès de la population pour leur dire il ne faut pas construire tel endroit, il faut construire tel endroit?
Oui, là, nous allons agir en tant que puissance publique. Nous allons prendre des arrêtés de désaffectation des sites qui posent problème pour que les sinistrés ne reviennent plus à ces endroits.
La sensibilisation, elle est importante.
La sensibilisation, elle est importante. Elle doit être l'œuvre de tout le monde. Mais nous, en tant que puissance publique, nous allons...
Mais c'est vous qui devez commencer.
Bien sûr que oui. Dernièrement, nous avons lancé une campagne de permis de construire pour sensibiliser les Congolais à obtenir au préalable un permis de construire. Parce que avant d'obtenir un permis de construire, on procède généralement à l'étude des terres. Est-ce que cette terre est susceptible de recevoir pareil ouvrage? Voilà la question.
Alors, monsieur Maître Mahou, tous les Congolais moyens, compte tenu de ses finances ou de son revenu, est-ce qu'il peut construire facilement?
Oh, bien sûr que oui, madame. Tout dépend de ses moyens. Mais ce qui importe pour nous, c'est de construire à un bon endroit, qui ne pose pas problème, qui ne soit pas source d'érosion ou d'inondation.
Alors, Monsieur Apollinaire Salomon a donné un exemple ici. On va prendre le cas de Météo, par exemple. Il y a des gens qui ont construit de ce côté-là. Est-ce que c'est possible qu'un monsieur se réveille le matin et se décide d'aller construire s'il n'a pas reçu les documents de l'État?
La loi ne l'autorise pas, mais vous savez, la pratique...
Ça veut dire qu'il y a des intouchables, il y a des gens qui peuvent enfreindre la loi?
Non, ce n'est pas des intouchables, mais il y a des bandits, des malfrats qui enfreignent la loi. Voilà.
Merci, Maître Mahoutou. Fabien Mouza, quelles sont les propositions, les solutions que vous proposez pour éviter ces genres de catastrophes à la longue?
Oui, merci madame. Je voudrais d'abord dire qu'il s'agit d'une question d'urgence. Et nous avons un plan officiel d'organisation des secours en cas de catastrophe. Il faut rapidement l'activer pour venir au secours des sinistrés. Et à long terme, ce qu'il faut faire, c'est restaurer l'autorité de l'État dans la gestion du secteur foncier. Il faut également, comme l'a dit tout à l'heure Maître, n'est-ce pas, Dirkaba, il faut donc, n'est-ce pas, faire en sorte que toutes les entités soient dotées d'un plan de prévention du risque d'inondation ou plan de prévention des risques d'inondation, en particulier, de manière générale, d'un plan de prévention des risques de catastrophes naturelles, madame. Et donc, également sensibiliser la population. Nous disions que cette population n'est pas exempte de toute responsabilité. Nous voyons ici, en Mbandaka, déjà, nous en sommes à la deuxième inondation pour ces 15 dernières années. Et donc, il y a une dizaine d'années, nous avons vu les mêmes sites être inondés. Quelques années après, les gens se permettent d'aller construire sur ces endroits-là. Et donc, il y a un effort de sensibilisation des populations à faire pour que celles-ci soient mieux informées et sachent prévenir des sinistres comme ceux que nous sommes de déplorer aujourd'hui.
La société civile a cette responsabilité aussi de sensibiliser la population. Est-ce
d'accord,
que vous le
madame,
faites?
Nous le faisons déjà, mais malheureusement, les moyens ne sont pas mis à notre disposition. Il faut des moyens, il faut des outils, il faut une préparation. Et donc, Malgré notre bonne volonté, nous ne pouvons pas faire le travail excellent que nous voulons, n'est-ce pas, avec simplement notre volonté. Il faut que l'État nous vienne en aide sur le plan matériel, sur le plan financier, et nous saurons faire ce que nous devons faire.
Est-ce que vous avez demandé cette aide à l'État ou les moyens pour la sensibilisation?
Oui, madame, bon, nous disons que nous avons des problèmes. Vous n'avez qu'à voir, par exemple, le budget de l'État congolais. Il ne peut pas nous permettre de faire face à toutes les difficultés que nous avons. Et donc, la Constitution prévoit déjà cette assistance de l'État envers les organisations de la société civile. Mais très souvent, notre réclamation est restée vaine auprès de nos autorités. Et donc, nous avons toujours demandé, malheureusement, on nous brandit la non-effectivité du budget qui n'a encore qu'un projet. Et donc, la réalisation pose problème. On dit qu'il n'y a pas de moyens. Bon, qu'est-ce que vous voulez, madame? La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a.
Merci, monsieur Munguza. Maître Apollinaire, c'est vrai, vous êtes architecte et consultant avec un budget faible. Fabien Munguza a soulevé la question du budget. Est-ce qu'avec un budget faible, on peut espérer mettre fin ou prévenir ce genre de situations?
Oui, bon, en suivant Monsieur Munguza, je compatis, vous sentez même dans ses dires, hein, il ne sait pas à quel sens c'est vous, il est désespéré de la situation qui est en Mbandaka, mais je voudrais rassurer que Monsieur Munguza, que ce n'est pas seulement, dire à Monsieur Munguza, c'est pas seulement Mbandaka, c'est tous les pays. Et pour ceux qui disent que le pays, c'est de ce côté-là, est vraiment malade. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il pourra sortir de. Ça ne peut être que des solutions peut-être palliatives. Même si aujourd'hui on donnait ces systèmes d'alerte, des systèmes de prévention, mais là où les gens occupent jusqu'à aujourd'hui, et l'État n'a pas cette politique de relocalisation, mais de mettre. Je comprends bien la bonne volonté du gouvernement, même ce qu'a dit le directeur, mais il sera pratiquement impossible. Pour ne pas être jeter l'anathème quoi, au gouvernement qu'il est incapable de faire ça, mais c'est impossible.
Merci Apollinaire Salomon. On va considérer cela aussi comme votre conclusion. Maître Bonaventure Matoumaoutou et à la société, la nouvelle société civile du Congo qui suggère au gouvernement pour éviter de tels drames dans l'avenir, le gouvernement congolais devrait prendre l'initiative de curer les caniveaux et nettoyer les lits des rivières pour éviter les inondations d'une telle ampleur.
Il a tout à fait raison, mais ça c'est au niveau de l'exécution. Nous, au niveau de l'urbanisme, aménagement du territoire et habitat, nous sommes au niveau de la superstructure. Donc nous devons faire en sorte que des textes soient votés en vue de contraindre la population à respecter les règles urbanistiques. Oui, madame, c'est ça. Donc nous sommes au niveau de la superstructure. Nous allons faire en sorte qu'il y ait des textes susceptibles d'aider les gens à respecter les règles d'aménagement du territoire, de l'aménagement rural, pour que cette catastrophe n'arrive point.
Merci, Maître Maoutou. On va prendre cela comme votre conclusion. Fabien Munguza, un mot en guise de conclusion.
Oui. Madame, je voudrais dire qu'il est temps que nous puissions nous considérer comme adultes dans ce pays. 55 ans après l'indépendance, et raconter certaines choses, ça fait froid, madame. Donc, prenons nos responsabilités, nous tous, entrons dans l'histoire pour faire de la République démocratique du Congo vraiment un pays émergent, comme le veut bien le président de la République. Et cette émergence doit se manifester dans tous les domaines de la vie. Et à commencer par des choses tout à fait primaires, comme les conditions de vie de la population, qui sont celles des sinistrés aujourd'hui. C'est dommage, madame. Et donc, prenons tous nos responsabilités pour que notre pays aille de l'avant.
Merci Fabien Munguza, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Alain Rung, Berry Franklin, Luchaka, Guy Mathieu, sous la supervision de Julien Nyamouini. La prise de son a été assurée par Hippolyte Kapanga. Au micro, Kelly Nkoussé, joyeux Noël chez vous et meilleurs voeux pour l'année 2016. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie compagnie des programmes de Radio Kwati. On se retrouve le 5 janvier 2016 pour le tout premier numéro du magazine Dialogue entre Congolais de l'année 2016. Au revoir.